RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditeurs et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs de la voix de l'Indonésie, bonsoir. Voici les actualités de la voix de l'Indonésie avec moi, Muhammad Suartono. Le titre du jour se compose avec le ministre Wiranto demande à toutes les parties de maintenir l'unité avec la tolérance. Le ministre religieux indonésien demande aux professeurs d'être critiques vis-à-vis du problème actuel. Et les États-Unis suivent la Chine et le Pakistan d'importer l'huile de l'Indonésie. Chers auditeurs, voici le contenu complet. Le ministre indonésien chargé de la politique de la loi et de la sécurité, Wiranto, a invité toutes les parties à défendre et à préserver l'unité héritée des fondateurs de l'État avec la tolérance. Cela a été dit par le ministre Wiranto lors de la 12e réunion nationale de travail Matlaul Anwar à Jakarta samedi. Il a déclaré que ce pays avait été construit sur la base de la tolérance mutuelle de ses prédécesseurs qui avaient réussi à unir divers groupes ethniques et à obtenir l'indépendance de l'Indonésie de la colonie néerlandaise. Par conséquent, l'unité et l'indépendance doivent être traitées avec la tolérance. Il invite également les gens à développer la tolérance et à se préparer à tout changement du monde. Le ministre de Religion, Luqman Hakim Saifuddin, a déclaré que les professeurs de différentes universités indonésiennes devaient être plus critiques vis-à-vis des problèmes actuels, notamment ce qui est pourrait menacer l'intégrité et l'unité de la communauté religieuse. C'est ce qu'a déclaré le ministre Luqman Hakim Saifuddin devant 100 professeurs d'université islamique de toute l'Indonésie lors du 12e sommet des professeurs d'éducation islamique à Bandung. Selon lui, si l'éducation est uniquement interprétée comme une transformation de la science, le dispositif joue un rôle plus rapide. Dans le même, le dispositif est beaucoup plus rapide pour répondre aux besoins de connaissances et d'informations plus que les conférenciers et les professeurs. Les conditions actuelles nécessitent une réponse sérieuse de la part des professeurs par le biais d'une approche académique basée sur des bases scientifiques et des services communautaires ou d'activités sociales. Selon le ministre, cette condition incitera de nombreux influenceurs des médias sociaux sans formation scientifique à avoir plus d'opportunités d'agir. Les États-Unis suivent la Chine et le Pakistan qui importent de l'huile de palme d'Indonésie. Selon une déclaration de l'Association indonésienne des entrepreneurs de l'huile de palme, GAPKI. Dans un communiqué reçu du directeur exécutif de GAPKI, Mukti Sarjono à Jakarta, a déclaré que jusqu'en octobre 2018, les États-Unis avaient enregistré une augmentation de leur importation, même si leur volume n'était pas grand. Il a ajouté qu'en octobre, la Chine avait augmenté de 63% ses importations de l'huile de palme en provenance de l'Indonésie. Il a expliqué que le Pakistan avait également enregistré une augmentation de 76% de ses importations, tandis que l'Inde enregistrait une baisse de 12% en octobre. Mais en termes de volume, l'Inde reste le plus grand importateur de l'huile de palme de l'Indonésie. Sergio Ritter, auditrice, vous écoutez toujours le bulletin de l'information de la Voix de l'Indonésie de Jakarta. Le vice-président Yusuf Kalla a proposé un examen périodique des projets de développement et de la coopération entre l'Indonésie et le Japon en 2045 qui vise à faire progresser la population de deux pays. Cela a été dit par le vice-président lors de la réception du projet 2045 et du 10e anniversaire de ERIA, l'Institut de recherche économique pour l'ASEAN et l'Asie de l'Est, Jakarta, samedi. Par le programme de projet 2045, l'Indonésie et le Japon peuvent préparer un avenir prometteur pour les habitants des deux pays. En outre, le projet devrait également permettre à l'Indonésie et au Japon de jouer un rôle important dans le développement mondial. Le ministre de coopérative de petites et moyennes entreprises, Anak Agung Gede Ngurah Prospayoga, souhaite que le Conseil international pour la petite entreprise ISCB puisse créer le petite et moyenne entreprise exportateur et d'entrepreneur à l'échelle de PME orientée vers l'exportation. C'est ce qu'a déclaré Anak Agung Gede Ngurah Prospayoga lors de l'inauguration de la gestion de ICSB de la province de Zil de Bangka Belitung à Pangkal Minang dimanche. Selon lui, en Indonésie, il y a déjà beaucoup d'associations qui protègent le petit et moyen échelle, mais la présence de ICSB, le petit entreprise, ouvrira davantage l'accès de PME à la pénétration de marchés régionaux et internationaux. La dernière, la faculté d'ingénierie de l'Université Pancasila a reçu une visite de recherche ou un programme d'échange d'étudiants de l'Université de sciences appliquées à Debut à Berlin en Allemagne qui souhaitait effectuer une recherche sur le bambou. Le personnel enseignant de l'Université Pancasila, Dede Lia Zarliatid, en tant que co-conférencier de Richard Babersik, l'étudiant allemand à Jakarta a déclaré demande qu'actuellement dans de nombreux pays, le bambou était devenu une très bonne alternative pour la construction de bâtiments. Selon la recherche, le bambou peut être utilisé comme l'un des matériaux de construction des bâtiments car il a une bonne résistance et il est léger. Richard Babersik, l'étudiant en génie mécanique, a mené des recherches à l'Université de Pancasila pendant 3 mois depuis octobre 2018. Chers auditeurs et auditrices de la Voix de l'Indonésie entière, c'était les actualités du jour.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Les droits de l'homme, les droits fondamentaux de chaque être humain. Les droits de l'homme sont les droits déjà appartenant à quelqu'un depuis qu'il était encore dans les utérus. C'est un droit fondamental qui existe chez l'homme et qui est universel. Par conséquent, les droits de l'homme doivent être protégés, respectés et maintenus et ne doivent être confisqués par personne. Le droit à la vie, le droit à la religion et le droit à la conviction sont des exemples de droits de l'homme. Le droit de l'homme est tellement important, ainsi chaque 10 décembre est célébré comme la journée mondiale des droits de l'homme. Cette date a été choisie parce que l'Assemblée générale de l'ONU a adopté et proclamé la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948. En effet, les droits de l'homme sont propriété de chaque être humain sans distinguer la tribu, race, couleur de la peau et la religion. Mais les violations des droits de l'homme se produisent encore fréquemment à l'échelle internationale et locale dans divers pays. Les violations des droits de l'homme sont des actions à prendre les droits des autres par la force. L'Indonésie a déjà reconnu l'existence des droits de l'homme avant que l'ONU adopte et promeuve la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948. Cela a été déclaré dans le premier paragraphe de l'ouverture de la Constitution indonésienne 1945 qui stipule qu'en réalité, l'indépendance est le droit de toutes les nations. Par conséquent, la colonisation du monde doit être abolie car elle n'est pas conforme à l'humanité et la justice. Bien que les droits de l'homme soient reconnus et respectés, dans des cas de violation des droits de l'homme ont eu lieu en Indonésie. En outre, des violations des droits de l'homme peuvent être causées par le mouvement séparatiste qui attaque l'appareil militaire du pays et le civil. Exemples de cas de droits de l'homme internationaux qui sont largement discutés sont la violence contre les Rohingyas au Birmanie et l'occupation israélienne dans les territoires palestiniens depuis 1967. Pour les deux cas de violation des droits de l'homme, l'Indonésie s'est fermement opposée et a soutenu les efforts pour les résoudre. Les violations des droits de l'homme peuvent toucher n'importe qui et peuvent se produire n'importe où. Il faut que toutes les parties prennent conscience et soutiennent le respect des droits de l'homme afin que les droits de citoyens puissent être garantis. Chers auditeurs et auditrices, c'était le commentaire d'aujourd'hui.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 10 décembre. Le 10 décembre, la journée des droits de l'homme. La journée des droits de l'homme est célébrée chaque année par de nombreux pays, y compris l'Indonésie, dans le monde entier, chaque 10 décembre. Cette date a été choisie en l'honneur de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a adopté et proclamé le 10 décembre 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'avertissement a commencé en 1950 lorsque l'Assemblée générale a invité tous les pays et organisations concernées à célébrer. Le 10 décembre 1957, le gouvernement a créé une compagnie pétrolière nationale. Pour gérer les actifs pétroliers, le gouvernement créa le 10 décembre 1957 une compagnie pétrolière nationale sous le nom de Perusahaan Minyak Nasional, en abrégé Permina. Cette société a ensuite rejoint Pertamina pour devenir Pertamina en 1968. Pour renforcer cette jeune société, le gouvernement a promulgué la loi numéro 8 en 1971, ce qui a fait de Pertamina une société d'exploitation pétrolière et gazière appartenant de l'État. La dernière, le 10 décembre 1901, la remise du premier prix Nobel à Stockholm en Suède. Le prix Nobel est décerné chaque année à ceux qui ont effectué des recherches extraordinaires, découvert de nouvelles techniques ou de nouveaux équipements ou apporté une contribution extraordinaire à la société. Le prix Nobel est décerné chaque année le 10 décembre, date du décès de Alfred Nobel. Des prix sont décernés chaque année depuis 1901 pour des réalisations en physique, chimie, psychologie ou médecine. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord Mon Indonésie.
Indonesiaku, Mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers auditeurs, voici donc Mon Indonésie et pour le titre, un complexe de l'industrie pétrochimique d'une valeur de 52,5 trillions rupiah est construit à Cilegon. Le complexe d'industrie pétrochimique appartenant à Lotte Chemical Indonesia à Cilegon, Banten, d'une valeur de 3,5 milliards dollars ou 52,5 trillions rupiah est construit officiellement. La construction a été marquée par une procession de pose de la première pierre vendredi par le ministre de l'Industrie, Airlangga Hartarto. Dans son discours, le ministre Airlangga Hartarto a déclaré que l'industrie pétrochimique est aussi importante que l'industrie sidérurgique en tant que mère de l'industrie. Par conséquent, la situation environnante et un climat commercial stable doivent être maintenus pour que ce projet soit bien mis en œuvre. Basé sur ces caractéristiques, selon Airlangga, l'industrie pétrochimique est considérée comme un type de secteur manufacturier à forte intensité de capital, à forte intensité de technologie et à forte intensité énergétique, de sorte qu'il faut nécessiter l'attention particulière du gouvernement pour le développement durable. Il expliquait que dans la feuille de route de Making Indonesia 4.0, l'industrie chimique était considérée comme l'un des secteurs prioritaires dans le développement pour devenir un pionnier de la mise en œuvre de la révolution industrielle 4.0. Pour cette raison, le ministère de l'Industrie apprécie Lotte Chemical Indonesia Société Anonyme qui a réalisé son investissement en construisant un complexe industriel pétrochimique sur une superficie de 100 hectares. Le complexe d'industrie pétrochimique a une capacité de production totale de 2 millions de tonnes de naphtha cracker par an. La matière première est ensuite traitée pour produire 1 million de tonnes d'éthylène, 520 000 tonnes de propylène, 400 000 tonnes de polypropylène et d'autres produits dérivés ayant également une valeur ajoutée élevée. La production de Lotte Chemical Indonesia Société Anonyme doit répondre à la demande nationale et mondiale. On estime que le projet de développement des infrastructures absorbera jusqu'à 1 500 travailleurs directs et 4 000 des travailleurs indirects au cours de la période 2019-2023. On pense que cet effort améliorera fondamentalement l'économie indonésienne en épargnant les devises étrangères de la substitution des importations tout en améliorant la balance commerciale. Selon Erlanga, la production de l'industrie pétrochimique peut soutenir la réduction des importations de produits pétrochimiques d'au moins 50%. Selon lui, sa partie espère également que ce projet priorise plus l'utilisation de composants locaux, y compris les travailleurs qui seront impliqués dans ce projet, doit être plus prioritaire de l'intérieur du pays. Chers auditeurs, c'était Mon Indonésie pour ce soir.
Le ministre Indonésien chargé de la politique de la loi et de la sécurité, Wiranto, a invité toutes les parties à défendre et à préserver l'unité héritée des fondateurs de l'État avec la tolérance. Cela a été dit par le ministre Wiranto lors de la 12e réunion nationale de travail Matlaul Anwar à Jakarta samedi. Il a déclaré que ce pays avait été construit sur la base de la tolérance mutuelle de ses prédécesseurs qui avaient réussi à unir différents groupes ethniques et à obtenir l'indépendance de l'Indonésie de la colonie néerlandaise. Par conséquent, l'unité et l'indépendance doivent être traitées avec la tolérance. Il invite également les gens à développer la tolérance et à se préparer à tout changement du monde. Le ministre de Religion, Luqman Hakim Saifuddin, a déclaré que le professeur de différentes universités indonésiennes devait être plus critique vis-à-vis des problèmes actuels, notamment ce qui pourrait menacer l'intégrité et l'unité de la communauté religieuse. C'est ce qu'a déclaré le ministre Luqman Hakim Saifuddin devant cinq professeurs d'université islamique de toute l'Indonésie lors du 12e sommet des professeurs d'éducation islamique à Bandung. Selon lui, si l'éducation est uniquement interprétée comme une transformation de la science, le dispositif joue un rôle plus rapide. Dans le même, le dispositif est beaucoup plus rapide pour répondre aux besoins de connaissances et d'informations plus que les conférenciers et les professeurs. Les conditions actuelles nécessitent une réponse sérieuse de la part des professeurs par le biais d'une approche académique basée sur des bases scientifiques et des services communautaires ou d'activités sociales. Selon le ministre, cette condition incitera de nombreux influenceurs des médias sociaux sans formation scientifique à avoir plus d'opportunités d'agir. Les États-Unis suivent la Chine et le Pakistan qui importent de l'huile de palme d'Indonésie. Selon une déclaration de l'Association indonésienne des entrepreneurs de l'huile de palme, GAPKI. Dans un communiqué reçu du directeur exécutif de GAPKI, Mukti Sarjono à Jakarta, a déclaré que jusqu'en octobre 2018, les États-Unis avaient enregistré une augmentation de leur importation même si leur volume n'était pas grand. Il a ajouté qu'en octobre, la Chine avait augmenté de 63% ses importations de l'huile de palme en provenance de l'Indonésie. Il a expliqué que le Pakistan avait également enregistré une augmentation de 76% de ses importations, tandis que l'Inde enregistrait une baisse de 12% en octobre. Mais en termes de volume, l'Inde reste le plus grand importateur de l'huile de palme de l'Indonésie. Sergio Ritter, auditrice, usia kita toujours, le bulletin de l'information de la voix de l'Indonésie de Jakarta. Le vice-président Yusuf Kalla a proposé un examen périodique des projets de développement et de la coopération entre l'Indonésie et le Japon en 2045 qui vise à faire progresser la population des deux pays. Cela a été dit par le vice-président lors de la réception du projet 2045 et du 10e anniversaire de l'ERIA, l'Institut de recherche économique pour l'ASEAN et l'Asie de l'Est, Jakarta, samedi. Par le programme de projet 2045, l'Indonésie et le Japon peuvent préparer un avenir prometteur pour les habitants des deux pays. En outre, le projet devrait également permettre à l'Indonésie et au Japon de jouer un rôle important dans le développement mondial. Le ministre de coopératives de petites et moyennes entreprises, Anak Agung Gede Ngurah Prospayoga, souhaite que le Conseil international pour les petites entreprises ISCB puisse créer les petites et moyennes entreprises exportateurs et d'entrepreneurs à l'échelle de PME orientées vers l'exportation. C'est ce qu'a déclaré Anak Agung Gede Ngurah Prospayoga lors de l'inauguration de la gestion de ICSB de la province de Zil de Bangka Belitung à Pangkal Minang dimanche. Selon lui, en Indonésie, il y a déjà beaucoup d'associations qui protègent le petit et moyen échelle, mais la présence de ICSB, le petit entreprise, ouvrira davantage l'accès de PME à la pénétration de marchés régionaux et internationaux. La dernière, la faculté d'ingénierie de l'Université Pancasila a reçu une visite de recherche ou un programme d'échange d'étudiants de l'Université de sciences appliquées à Debut à Berlin en Allemagne qui souhaitait effectuer une recherche sur le bambou. Le personnel enseignant de l'Université Pancasila, Dede Lia Zarliatid, en tant que co-conférencier de Richard Babersik, l'étudiant allemand à Jakarta a déclaré demande qu'actuellement dans de nombreux pays, le bambou était devenu une très bonne alternative pour la construction de bâtiments. Selon la recherche, le bambou peut être utilisé comme l'un des matériaux de construction des bâtiments car il a une bonne résistance et il est léger. Richard Babersik, l'étudiant en génie mécanique, a mené des recherches à l'Université de Pancasila pendant 3 mois depuis octobre 2018. Chers auditeurs et auditrices de la Voix de l'Indonésie entière, c'était les actualités du jour.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, bienvenue au Magazine Culturel, un programme quotidien sur le tourisme, les alimentations, les arts et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous invitons à visiter l'île Mopar aux îles Riau. Restez à l'écoute. Chers auditeurs, l'île Mopar est située dans la province des îles Riau. Cette île n'a pas seulement de beaux paysages, mais aussi un site historique. L'île de Mopar est au sud de l'île de Lingga. En administratif, l'île est située dans le village de Mopar, le district de Lingga en province des îles de Riau. L'île de Mépar est bien connue pour son historique touristique. L'un d'eux est quatre forteresses de l'héritage du royaume Riolinga. Les quatre forteresses sont la forteresse d'Ilir, la forteresse de Lecoq, la forteresse de Tanjung Segitiga et la forteresse de Tenga. La forteresse de Lecoq est située sur la colline et fait directement face à la baie de Bouton située sur l'île Linga et complétée par sept canons. Malheureusement, ces forteresses sont endommagées et envahies par des plantes sauvages. Cependant, cela ne fait pas baisser l'intérêt des visiteurs pour les visiter. Non seulement le site historique, les habitants de l'île de Mépar deviennent aussi des attractions de cette île. Jusqu'à présent, les populations locales conservent encore la béquille de Tanah Bunda Melayu. Chaque touriste qui vient sur cette île n'a pas besoin de louer un logement, car les résidents locaux seront heureux de fournir leur maison pour les touristes qui veulent passer la nuit sur l'île de Mépar. C'est parce que les habitants de l'île de Mépar préservent leur patrimoine de parents adoptifs, c'est-à-dire que chaque visiteur qui visite leur village est leur enfant qui a besoin d'un arbre. Pour accéder à l'île de Mépar, si vous partez de l'île de Batam ou l'île de Bintan, vous devrez vous rendre au port de Jagoh Dabo Singkep, situé sur l'île de Singkep, tous les jours. Ensuite, le visiteur doit continuer le voyage en utilisant un bateau rapide jusqu'à l'île de Mépar. Cela prend environ 30 minutes. Serviteurs, c'était notre programme pour ce soir, le magazine culturel. Merci de votre attention. À demain.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix d'Indonésie et l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Cuti Akhir Tahun ou en langue française Congé de fin d'année. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre Cuti Akhir Tahun ou en langue française Congé de fin d'année. Chez Joko, Tony et Joko discutent du projet de vacances de Joko.
Akhirnya, aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan.
Syukurlah. Berapa lama kamu akan cuti?
2 minggu.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir cuti akhir tahun. Cuti akhir tahun, en français, congé de fin d'année. Je vais prononcer 2 fois et vous pouvez répéter après moi. Awal. Awal, en français, début. Akhir. Akhir, en français, fin. Tengah. Tengah, en français, milieu. Berangkat. Berangkat, en français, départ. Berjemur. Berjemur, en français, bronzer. Akhirnya, aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. Akhirnya, aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. En français, enfin, je peux prendre un congé à la fin de cette année et au début de l'année prochaine. Syukurlah. Syukurlah, Français, merci mon Dieu. Berapa lama kamu akan cuti? Berapa lama kamu akan cuti? En français, combien de temps allez-vous prendre en congé? Dua minggu. Dua minggu. En français, deux semaines. Akhir bulan. Akhir bulan. En français, fin du mois. Berlibur. Berlibur. En français, prendre des vacances. Awal bulan depan. Awal bulan depan. En français, début du mois prochain. Liburan akhir semester. Liburan akhir semester. En français, vacances de fin de semestre. Tengah semester. Tengah semester. En français, mi-semestre. Tengah malam. Tengah malam. En français, minuit. Tengah hari. Tengah hari. En français, midi. Saya atau aku. Saya atau aku. En français, je. Mereka. Mereka. En français, il ou elle. Dans le dialogue, Joko Adi, akhirnya aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. Akhirnya, aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. En français, enfin, je peux prendre un congé à la fin de cette année et au début de l'année prochaine. Dalam ungkapan yang disampaikan Joko, terdapat kata dans l'expression transmise par Joko, il y a le mot awal. Awal, en français, début. Et akhir, akhir, en français, fin. Les mots awal et akhir peuvent être combinés avec des mots qui indiquent des périodes telles que minggu, minggu, en français, semaine. Bulan, bulan, en français, mois. Semester, semester, en français, semestre. Et tahun, tahun, en français, année. L'exemple de l'utilisation dans la phrase. Saya akan cuti pada akhir bulan ini. Saya akan cuti pada akhir bulan ini. En français, je prends un congé à la fin de ce mois. Kami akan berlibur pada awal bulan depan. Kami akan berlibur pada awal bulan depan. En français, nous serons en vacances au début du mois prochain. Sebentar lagi kita akan liburan akhir semester. Sebentar lagi kita akan liburan akhir semester. En français, bientôt nous prendrons les vacances à la fin du semestre. Kamu akan kemana akhir minggu ini? Kamu akan kemana akhir minggu ini? En français, où allez-vous ce week-end? Outre les mots awal et akhir, ada kata lain yang biasa digunakan untuk menunjukkan waktu jika digabungkan dengan kata yang menunjukkan masa waktu, yaitu il existe d'autres mots qui est généralement utilisé pour indiquer l'heure lorsqu'il est combiné avec le mot qui indique la période, c'est-à-dire le mot tengah. Tengah. Exemple dans la phrase, mereka akan berangkat pada tengah malam nanti. Mereka akan berangkat pada tengah malam nanti. En français, ils partiront à minuit. Aku tidak mau berjemur pada tengah hari. Aku tidak mau berjemur pada tengah hari. En français, je ne veux pas bronzer à midi. Pada tengah semester ini tidak ada liburan. Pada tengah semester ini tidak ada liburan. En français, au milieu du semestre, il n'y a pas de vacances. Serguita, avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Akhirnya, aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan.
Syukurlah. Berapa lama kamu akan cuti?
2 minggu.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir. Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, tous les auditeurs de RLI du Service mondial de la voix de l'Indonésie, n'importe où que vous soyez, avec moi Tiwi dans la rubrique du magazine Cultura. L'édition d'aujourd'hui va vous présenter les chansons de Kroncong qui sont chantées par Tuti Mariati. La femme née à Makassar, Sulawesi du Sud, le 8 octobre 1956, est également connue sous le nom de Tuti Trisedia. Bon, écoutons la première chanson interprétée par Tuti Trisedia, s'intitule Rayuan Pulau Kelapa, ou en français, La séduction d'île de noix de coco. Chers auditeurs, Rayuan Pulau Kelapa est une chanson écrite par Ismail Marzuki. Cette chanson parle de la beauté de l'Indonésie. Les îles fertiles avec des cocotiers agites deviennent l'idole de son peuple tout le temps. C'est l'une des chansons nationales obligatoires de l'Indonésie. Chers auditeurs, Tuti Trisedia a passé son adolescence à Bandung, Java de l'Ouest. Après cela, il a continué ses études à l'ASMI Jakarta, puis à la faculté de droit UPN Veteran Jakarta. Au cours de son éducation, Tuti Mariati a réalisé un certain nombre de réalisations. En 1975, il a été élu à un échange d'étudiants dans le cadre du programme d'échange entre les jeunes du Canada et d'Indonésie, Indonesia-Canada World Youth Exchange Program. Dans le monde du chant, son nom a commencé à être connu depuis qu'il a obtenu le premier titre de radio et télévision star en 1946 pour la catégorie Kronchon. Il a également remporté le premier champion de compétition de Kronchon entre Kotama TNI Marine et la deuxième place en 1983. Selon lui, il n'a jamais appris à chanter des chansons de Kronchon, mais elle écoute toujours la chanson de Waljina et de Sundari Sukojo. Bon, les auditeurs, écoutons une chanson intitulée Tanah Air ou Patrie.
Thank you.
Chers auditeurs, la chanson que vous venez d'écouter est aussi une chanson qui montre l'amour et l'admiration pour la beauté de la patrie indonésienne. En 1988, Tuti était chanteuse au Palais d'État qui a chanté devant les invités de l'État. Elle a également été l'animateur, la chanteuse et le coordinateur du programme de Gebiar Keroncong, une émission qui est diffusée sur la chaîne de télévision nationale TVRI. Avec un groupe d'art indonésien, il s'est rendu plusieurs fois dans divers pays. Tuti a également fondé Warung Keroncong Gaul, qui est devenu un endroit où les amoureux des chansons de keroncong se sont réunis, ainsi qu'un conteneur pour les jeunes chanteurs de keroncong pour essayer de chanter. Ce studio a donné naissance de plusieurs jeunes chanteurs de keroncong, par exemple Sriyono, un homme aveugle avec une voix d'or. Au cours de sa carrière dans le monde de la musique, Tuti a sorti plus de 15 albums de keroncong. Chers auditeurs, on termine notre rencontre d'aujourd'hui en écoutant deux chansons de Tuti Trisedia, dont les titres sont Tinggi Gunung Seribu Janji et Kicir Kicir. Bonne écoute et à la prochaine!
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook, The Voice of Indonesia, et Twitter, @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.